Il y a un des cantiques que l'on chante. Je vais vous citer un passage de ce cantique-là, puis ça va mettre le thème un peu du message que je veux vous donner aujourd'hui. Ça dit ceci: tous ceux qui connaissent ton nom se fieront toujours à toi. En parlant de Dieu, tous ceux qui connaissent ton nom vont toujours se fier à toi. Il y a quelqu'un de l'Église qui m'a fait une remarque par rapport à ce passage-là dans le cantique qu'on chante. La personne m'a fait la remarque cette semaine en disant, il faut vraiment bien connaître une personne, en parlant du plan humain, pour lui faire totalement confiance. Autrement dit, on ne fait pas confiance au premier venu. Puis avant de faire totalement confiance, même à quelqu'un, il faut vraiment le connaître et savoir un peu le fond de cette personne-là pour s'associer à elle ou lui confier des choses ou compter sur elle, si on lui demande quelque chose, de savoir qu'elle va le faire. Ça prend du temps et ça prend de l'expérimentation, je dirais, avec cette personne-là, des choses vécues ensemble pour que la confiance se développe. Et avec Dieu, la confiance, ça s'apprend aussi. C'est un processus qu'on développe. Et en tant qu'être humain, lorsque Dieu nous appelle, qu'on découvre qui il est, qu'on découvre son plan, ses voies, et qu'on voit comment Dieu répond aux prières, comment il est le Tout-Puissant, à ce moment-là, plus on vit ces choses-là, plus notre confiance en lui se développe. C'est ça qui se passe. Et on en vient à avoir une confiance absolue, une confiance totale dans notre Créateur, parce qu'on le voit réellement pour qui il est, et on est sûr qu'il va se comporter exactement selon ce qu'il promet dans sa parole. Alors, on peut se fier totalement à notre Père Céleste. Et le titre du message que je veux vous donner aujourd'hui, c'est « Connaître notre Père Céleste ». Connaître notre Père Céleste. Et quand Dieu nous appelle, on ne connaît pas Dieu avant qu'il nous appelle. On s'imagine connaître Dieu. Tous ceux que Dieu a appelés au cours des dernières années, et ceux qu'il va appeler d'ici le retour de Christ, pensaient, pour la plupart, connaître Dieu. Mais ils ont découvert, avec la Bible, un Dieu différent de celui qu'ils pensaient. Et ils ont découvert aussi que le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, demande des choses précises en ce qui concerne comment l'aimer. Et il se révèle à nous, à travers la Bible, puis à travers les expériences qu'il nous donne de vivre. Et là, on apprend à connaître notre Père Céleste. Et plus on apprend à le connaître, plus on devient sécure, comme un enfant qui en vient à avoir une confiance absolue en ses parents. Je veux vous donner quelques aspects de ce que c'est connaître quelqu'un, ou particulièrement ici dans le message, qu'est-ce que c'est que de connaître notre Père Céleste. Différents aspects. Allez à Deutéronome chapitre 8, s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 8. Le premier aspect de connaître Dieu, notre Père Céleste, c'est de savoir. Connaître, c'est savoir. Et Dieu, dans Deutéronome 32, verset 32, dit « Sachez que c'est moi qui suis Dieu. » Et ça, ça revient à plusieurs endroits dans la Bible. « Sachez que je suis l'Éternel. » Apprenez-le. Donc, apprenez à me connaître et à savoir que c'est moi qui suis le Créateur de toutes choses, qui vous protège, qui vous donne la nourriture, la vie, le souffle, et ainsi de suite. Et c'est intéressant parce qu'à d'autres endroits dans la Bible, en parlant de ce qui va se passer après que le Christ va être revenu, au sujet de tous ceux qui pensent connaître Dieu actuellement, mais qui ne le connaissent pas, il sera donné de connaître le vrai Dieu une fois que le Christ sera revenu sur la terre d'ici quelques brèves années. Et quand Dieu parle de ce qui va se passer à ce moment-là, il en parle dans les termes suivants. Il dit, les gens, ils sauront, en parlant des gens qui seront encore vivants à l'époque où le Christ va revenir, ils sauront que je suis Dieu. Il ne pourra plus y avoir aucun doute possible à savoir est-ce que Dieu existe ou est-ce qu'il n'existe pas et qui est-ce qu'il est au juste. Les gens vont le connaître directement, d'abord parce que le Christ va être revenu lui-même sur la terre, et ils vont savoir qui est Dieu. Il n'y aura plus aucun doute. Ils vont connaître sa puissance. Restez dans Deutéronome 8. Je vais donner ça pour que vous soyez déjà rendus, car moi, j'arriverai. OK? Alors, Dieu, à plusieurs endroits, il dit, « Sachez que c'est moi qui ai Dieu. » Ça fait partie d'apprendre à le connaître. Et en parlant du monde à venir, après que Christ va être revenu, il dit, « Ils vont savoir que je suis l'Éternel. » Il n'y a pas un qui va douter de qui est Dieu à ce moment-là. Et il se fait connaître à nous. Deutéronome 8, ici, il parle de la nation d'Israël que Dieu a sorti d'Égypte à un moment donné lorsqu'ils étaient en esclavage, tel qu'il leur avait promis longtemps auparavant. Et il leur dit ceci, « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. » Ce n'est pas pour qu'ils soient malheureux ou qu'ils manquent de quelque chose. Non, afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Il avait promis longtemps d'avance de donner aux descendants d'Israël un pays particulier au Moyen-Orient, que ça allait être le pays promis. Bon, il dit, observez mes lois, je vais vous donner ce pays-là que j'ai promis, parce que je suis un Dieu fidèle. C'est ça qu'il mentionne ici. Et ça fait partie d'apprendre à connaître Dieu que de découvrir qu'il est fidèle. Et s'il a été fidèle dans plein de choses, comme on voit dans la Bible, il va être fidèle dans tout ce qu'il a promis qui va arriver sous peu, et qui va arriver à ceux qui le cherchent et qui veulent faire sa volonté. Et il dit plus loin au verset 3, en parlant des Israélites qui ont vécu l'expérience dans le désert et tout ça, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Pourquoi? Afin de t'apprendre. Il y avait une grande leçon à travers les expériences de vie que ces gens-là ont vécues, afin qu'ils apprennent que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ce grand Dieu-là, vivant, tout-puissant, qui a un plan pour toute l'humanité, il a commencé ici avec la nation d'Israël qui avait appelé à ce moment-là, il s'est révélé à eux, il leur a donné ses lois, et il dit, vous devez vivre selon toute parole que je vous dis, parce que c'est pour votre bien, c'est pour que vous soyez heureux. Alors, apprendre à connaître l'Éternel, c'est donc apprendre à connaître ses voies puis à découvrir le bonheur que Dieu a en réserve pour nous, même dans la vie actuelle, parce que les lois de Dieu apportent de bonnes choses, ont de bonnes conséquences. Connaître notre Père céleste, c'est encore autre chose. C'est voir sa majesté. Vous pouvez lire la Bible, et c'est ce qu'on fait chaque jour. On lit la Bible, on voit sa majesté, on voit sa puissance, on voit son poste d'autorité, on voit sa suprématie sur toute chose. On voit qu'il a la puissance de faire arriver exactement les choses qu'il a dit. On peut aussi voir sa puissance quand on sort dehors sous un ciel étoilé le soir et qu'on voit les planètes, comme David faisait. David, il regardait la même lune qu'on regarde, le même soleil qu'on regarde le jour, les mêmes étoiles qu'on regarde la nuit. Puis à un moment donné, il a écrit dans un des psaumes, « Qu'est-ce que je suis, moi, pour que tu te rappelles de moi? Qu'est-ce qu'on est, nous, les êtres humains, pour que tu te rappelles de nous? Tu es si grand. Ta majesté se voit à l'œil nu dans la création. » C'est ça que David leur disait. Alors, apprendre à connaître Dieu, c'est voir sa majesté dans sa création, voir sa majesté et sa puissance dans ce qu'il a fait tout au long de l'histoire jusqu'à maintenant, dans ce qu'il est en train de faire aussi. Job a vécu cet aspect-là de la connaissance de Dieu. Vous savez, Job a passé par une période très difficile à un moment donné. Et puis, Job avait certains problèmes à régler, bien sûr. Mais à un moment donné, quand il a compris ce que Dieu voulait lui faire comprendre à travers les épreuves qu'il a permis à Job, qui était à l'école à travers ça, qu'est-ce que Job a dit dans Job 42, verset 5? Job a dit à Dieu, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Autrement dit, ce que Job dit ici, Dieu, Père céleste, je ne te connaissais pas vraiment. Là, je viens de commencer à te voir tel que tu es. Et des fois, ça prend des années avant de découvrir une partie de la dimension magistrale de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec Job, qui était pourtant un serviteur de Dieu depuis des années. Rappelez-vous ce que Dieu a dit de lui au début du livre de Job. Il dit, voici mon serviteur Job, là. J'aime ce qu'il fait, ça me plaît. Mais Job avait encore d'autres choses à apprendre. Dieu l'a emmené plus loin. Et une fois qu'il a appris, ce qu'il a appris dans le fond, c'est qu'il ne connaissait pas vraiment Dieu. Et là, ses yeux se sont ouverts. Là, je te vois vraiment tel que tu es. et je vois ta grandeur. Alors, connaître notre Père céleste, c'est savoir qui il est, c'est apprendre ses voies, apprendre sa majesté, apprendre sa puissance, c'est le voir davantage chaque jour comme il est réellement. Et c'est plus que ça encore. C'est expérimenter. On est des êtres humains physiques, hein? Puis on apprend par expérimentation, par expérience, puis Dieu le sait. C'est pour ça qu'il nous dit dans Michée 6, le verset 8, vous pourrez aller voir plus tard, il donne le principe que chaque être humain qui est appelé à connaître Dieu doit mettre en pratique. Il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Il y a d'autres choses également, mais j'attire votre attention sur ce point-là. Il dit, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu marches avec lui. Ça veut dire quoi? Marcher avec quelqu'un. Marcher avec quelqu'un, ça se fait dans le temps. Ça se fait avec des expériences. Ou, à un moment donné, on est mal pris, puis on apprend à lui faire confiance, à lui demander son aide, puis on le voit nous répondre, parce que Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Et plus on le voit répondre à nos prières, plus notre confiance augmente, plus on le connaît. Ça va ensemble. Et c'est pour ça que je dis que connaître Dieu, c'est marcher avec lui, prendre le temps. Tout n'arrive pas d'un coup. Dieu est un Dieu qui travaille dans le temps. Il n'est pas pressé. Nous, lui est hors du temps. Nous sommes dans le temps, mais lui, il est hors du temps. Et il travaille avec nous de façon particulière. Alors, connaître Dieu, c'est faire des expériences avec lui. C'est pour ça qu'il dit à différents endroits, par exemple, il dit « Attachez-vous à lui, attachez-vous à Dieu. Suivez ses voies. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » Alors, on a une part à jouer. Et dès qu'on joue cette part-là, lui, il fait un multiple de ça de son côté vers nous. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Et c'est encore le temps de le chercher de tout notre cœur. Alors, connaître Dieu, c'est donc marcher avec lui, c'est-à-dire faire des expériences avec la personne. Connaître un être humain sur le plan humain, c'est quoi? C'est aussi de marcher avec lui, de vivre en contact avec cette personne-là dans différentes circonstances. Et là, on apprend quoi? On apprend à le connaître. Et là, il se développe une confiance si la personne est digne de confiance, voyez-vous? Alors, c'est expérimenter de vivre selon les voies de Dieu aussi. Connaître Dieu, c'est aussi comprendre ses voies de plus en plus. Puis ça ne se fait pas d'un coup sec, ça non plus. C'est de comprendre qui il est, comprendre comment il pense, comment il agit, qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est quoi son plan, c'est quoi son but. Plus on étudie sa parole, puis plus on met les choses en pratique, là, il nous donne de comprendre. Et plus on comprend, plus on connaît Dieu, plus on comprend son plan, comprend comment il pense, comment il agit, qu'est-ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit dans Actes 5, verset 32, que le Saint-Esprit, Dieu le donne à ceux qui lui obéissent. Alors, dès que quelqu'un est appelé à connaître Dieu, et même sans comprendre les lois que Dieu demande d'appliquer dans nos vies, qu'on les met en pratique, Dieu nous donne son esprit. Et là, il nous donne de comprendre davantage le pourquoi de ces lois-là. Puis il nous donne davantage de comprendre son plan. Il nous donne davantage de le connaître. Parce que c'est ça qu'il pense. Ses lois sont exactement le reflet de son caractère parfait. Dieu, il n'y a pas d'ombrage de changement en Dieu. Dieu est parfaitement heureux. Dieu est parfaitement joyeux. Il n'a pas besoin de moi pour être joyeux. Moi, j'ai besoin de lui pour être joyeux et pour être heureux. Et en tant que bon papa, en tant que Père céleste, il nous révèle, voici comment être heureux. Je vous le dis là, maintenant à vous de choisir. C'est ça qu'il dit à la fin de Deutéronome, « J'ai mis devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis le bien afin que tu vives, toi et ta descendance. » C'est toujours pour qu'on soit bien, qu'on soit heureux. Que nos relations entre nous soient meilleures aussi, entre mari et femme, entre père et enfant, et ainsi de suite, et avec nos voisins. Et ça, c'est les bases de la civilisation prochaine, quand le Christ va être revenu sur la terre. Parce que ça va être les mêmes lois qu'on va appliquer, qu'on devra enseigner, qu'on devra encourager les gens, les consoler, les guérir, leur montrer le chemin. Connaître Dieu, c'est aussi apprécier ce qu'il fait. C'est pour ça que c'est important de s'arrêter, même dans notre société folle de courses qui mène nulle part, folle de courses vers le néant, pour prendre le temps de regarder une fleur, Prendre le temps de regarder un coucher de soleil. Des fois, on est obligé de se forcer pour arrêter la course, là, parce que ça court tellement autour qu'on est comme entraîné par la vague. Là. Ça nous sollicite de partout. Et parfois, on est obligé de prendre une décision volontaire, il faut le faire, pour prendre le temps de s'arrêter puis de voir les beautés qu'il y a autour. Et encore là, de voir les réponses que Dieu a données à nos prières. Parce que Dieu ne nous répond pas toujours par des choses éclatantes. Des fois, oui. Mais des fois, il nous répond par des petites circonstances qui changent autour de nous et qui se préparent. Et pour connaître Dieu, il faut apprécier ces choses-là. Et pour les apprécier, il faut les identifier. Puis pour les identifier, il faut ouvrir l'œil, comme Job, prendre le temps de regarder comment Dieu agit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il s'attend de moi. Allez dans Jean 3, s'il vous plaît. Jean, chapitre 3. En résumé, connaître Dieu, si j'essaie de mettre ça dans des mots simples pour qu'on garde une image, c'est établir puis développer une relation personnelle avec lui. C'est d'établir et développer une relation personnelle, pas avec n'importe qui. Avec celui qui se présente comme notre Père, avec celui qui est le gouverneur de l'univers. C'est ça que ça veut dire. Et de réaliser que tout nous vient de lui. Écoutez, je précise un point ici. C'est d'ailleurs lui qui a rendu possible cette relation avec lui, dans chacun de ceux qu'il a appelés actuellement. Si vous êtes en relation personnelle, directe avec votre Créateur, c'est lui qui vous l'a donné. C'est pas vous qui l'avez décidé. Et ça ne vient pas de vous, il vous l'a offert. Le Christ a dit, personne ne vient à moi, personne ne devient chrétien, à moins que mon Père ne l'attire à moi. Alors, c'est Dieu qui fait l'initiation du processus pour qu'on aille vers le Christ et pour qu'on découvre qui Dieu est, notre Père, et comment nous approcher de lui, quel genre de relation avoir avec lui. Alors, c'est Dieu qui a fait les premiers pas. Autrement dit, c'est Dieu qui a initié la relation que ses appelés ont actuellement avec lui. C'est lui qui a initié ça. Et c'est pour ça que c'est marqué dans 1 Jean 4, verset 19. 1 Jean 4, verset 19, « Nous l'aimons, en parlant de notre Père. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. » C'est clair. Si on est capable aujourd'hui de l'aimer, de nous tourner vers le vrai Dieu qui se révèle à nous, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Lui a fait les premiers pas. Et regardez Jean 3 maintenant. Jean 3 et le verset 16, qui va exactement avec ça. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on voit dans la Bible que la décision a été prise que le Christ allait venir sur la terre en tant qu'agneau de Dieu pour donner sa vie, pour payer l'amende de nos péchés. Cette décision-là a été prise dans la salle du trône de Dieu longtemps avant qui crée les êtres humains. Il savait qu'il allait devoir faire un sacrifice pour racheter ces êtres faibles-là et pour qu'ils puissent établir une relation directe, eux, avec leur Père. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Ça, c'est le but de la vie. On a une vie temporaire physique actuellement. Mais Dieu veut nous donner la vie éternelle si on se soumet à ses lois, si on accepte de changer et de vivre selon ses voies, pour qu'on soit heureux, puis qu'on rende les autres heureux aussi. Alors, voyez-vous, tout ça se tient. C'est lui qui a initié, qui a fait les premiers pas pour rendre la relation possible entre nous, faible être humain, limité, et le gouverneur de l'univers, le créateur de toutes choses. Alors, écoutez, dans ce cas-là, c'est pas étonnant que ce soit lui qui fixe la sorte de relation qui doit exister entre lui et nous. C'est lui qui nous dit, autrement dit, comment l'aimer. Ce n'est pas à nous autres à déterminer ça. Il nous le dit. Il ne nous laisse pas dans le vague. Et notre part, c'est de le laisser développer en nous son amour. Et même de lui demander de nous donner de l'aimer. J'arrête là-dessus parce que c'est un élément important. Tout nous vient de Dieu. Le Christ même disait, de moi-même, je ne peux rien. C'est par le Père. Paul disait, à moi, tout est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors, voyez-vous, tout vient de lui. Et même l'aimer, il faut lui demander de nous montrer comment il veut qu'on l'aime. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour l'aimer selon ce que lui veut. comme il veut être aimé. D'ailleurs, dans 2 Thessaloniciens 3:5, Paul, en faisant une prière pour les gens de cette église-là, a dit ceci, « Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. » Voyez-vous? Autrement dit, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, c'est-à-dire que Jésus-Christ dirige vos cœurs, vous les appelez, là, vers l'amour de votre Père. Ça, c'est le même scénario, le même phénomène. Alors, Dieu se révèle à nous comme un Père, c'est-à-dire comme l'autorité paternelle suprême qui, lui, est remplie d'un amour parfait. Et il veut mettre son amour dans nous autres pour qu'on soit capable d'arriver à la perfection, d'avoir un caractère parfait, d'être capable de toujours penser juste, bien faire, agir selon ses voies, être heureux, rendre les autres heureux. C'est ça ce qu'il veut. Et avoir la vie éternelle. Et vivre éternellement dans ces conditions-là. Pas dans les conditions humaines que nous sommes, dans les imperfections qu'on a maintenant. Et par ses lois, Dieu fixe les limites pour nous, pour notre bien-être. C'est ça que les lois de Dieu font. Il fixe les limites pour notre bonheur. Dieu veut qu'on croisse spirituellement. Il communique avec nous, entre autres, par sa parole écrite. C'est pour ça qu'on doit étudier chaque jour et que c'est tellement motivant d'étudier sa parole chaque jour parce qu'on apprend à le connaître et on voit comment il nous aime puis il nous montre comment vivre heureux, comment rendre les autres heureux. Il nous encourage, il nous pardonne. Mais ces lois sont des balises. Il y a des gens qui disent « Ah, les lois de Dieu nous empêchent d'être bien ou nous empêchent d'être heureux. » Non, 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 non. Ils nous empêchent peut-être parce qu'ils nous font réaliser qu'on ne doit pas faire des choses mauvaises. Qu'on ne doit pas voler, par exemple, ce n'est pas une chose qui est très bonne. Qu'on ne doit pas mentir, ni commettre l'adultère, ni être ivrogne, ni être quoi que vous voulez, qui est transgression des lois de Dieu. Puis c'est pour notre bien. J'ai vu un exemple dernièrement que j'ai trouvé formidable concernant les lois de Dieu, qui sont bonnes pour nous, malgré ce qu'en disent certaines personnes qui ne voudraient pas voir les lois de Dieu comme étant réelles. Je comprends, parce qu'ils veulent faire ce que leur nature humaine désire faire. Mais les lois de Dieu, c'est comme les côtés d'un pont. C'est comme les balises qu'il y a sur le bord du pont. C'est comme les rampes qu'il y a sur le bord d'un pont. Vous passez sur un pont qui est très élevé, par exemple sur le pont de Québec ici, qui est assez long et qui est très élevé au-dessus des eaux. Imaginez-vous qu'il n'y aurait pas de garde sur le côté. C'est juste une surface plate. OK? Et là, ça, c'est votre vie. Vous traversez le pont. C'est votre vie. C'est votre façon de vivre, ça. C'est votre chemin de vie, je veux dire. Comment vous vous sentiriez en voiture avec rien autour, là? S'il se produit quelque chose, vous périssez. Vous avez des dommages extraordinaires. C'est exactement comme ça que Dieu a conçu ses lois. Quand il a dit, vous ne mentirez pas, vous ne tuerez pas, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face, vous allez observer le sabbat, vous ne commettrez pas l'adultère, c'est pour éviter que les êtres humains tombent dans ce panneau-là et se fassent mal, et fassent mal aux autres, et se détruisent éventuellement s'ils ne veulent pas se repentir de ça. C'est simplement ça. Voyez les lois de Dieu comme ça, et ça nous montre l'amour de Dieu. Les lois de Dieu ne sont pas restrictives. Les lois de Dieu sont pour notre protection puis notre bien-être. Aussi simple que ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas les lois de Dieu et qui accusent Dieu indirectement en disant qu'il nous empêche de jouir de la vie. Quelle jouissance, oui. Quelle jouissance. Si les gens courent à gauche et à droite et ont des relations sexuelles avec tout le monde libre, avec quelque sexe que ce soit et tout, et qu'il y a toutes les maladies qui en découlent et toutes les souffrances morales et physiques, les enfants abandonnés et ainsi de suite, est-ce que c'est bon? Si les gens boivent trop et disent des choses qu'ils ne devraient pas dire ou font du mal aux autres autour d'eux, est-ce que c'est bon? La personne peut bien aimer ça un bout de temps et vouloir tenir à ça. Mais c'est le chemin de se tuer, c'est un suicide. Et c'est pour ça qu'il faut être équilibré dans ces choses-là, comme en ce qui concerne la boisson. Il faut l'apprendre. Et c'est une balise que Dieu met pour pas qu'on se fasse mal. Alors, ce n'est pas un empêchement d'être heureux. On peut prendre un verre de vin ou deux en mangeant, mais pas deux bières avant, puis deux cognacs après, puis une bouteille de vin entre les deux. Voyez-vous? C'est la question de la maîtrise de soi pour l'équilibre. Dieu ne défend pas ces choses-là. Il y a des choses que Dieu défend absolument, mais il y a des choses que Dieu veut qu'on apprenne à faire avec modération. Alors ça, c'est d'apprendre les voies de Dieu, c'est d'apprendre à connaître Dieu. C'est les balises que je vous dis, c'est les bords du pont. Mais voir les lois de Dieu comme ça, ça nous encourage, ça nous aide. Et plus on apprend à connaître Dieu, plus on se rend compte qu'il aime chacun de nous autres et chacun des êtres humains qu'il va appeler bientôt et un peu plus tard. Plus il aime chacun des êtres humains d'un amour inconditionnel. Je pèse bien mes mots. Dieu aime chaque être humain d'un amour inconditionnel, mais il faut bien définir les termes. Ce n'est pas un amour permissif qui dit aux gens, faites ce que vous voulez parce que je vous aime. Ce n'est pas ça l'amour inconditionnel. Ça, c'est des parents qui n'aiment pas vraiment leurs enfants ou qui n'ont pas appris comment aider leurs enfants, qui leur laissent faire n'importe quoi. Des parents qui aiment leurs enfants d'un amour inconditionnel, qui qu'il soit, dans quelques circonstances qu'il se trouve, puis tout ça, vont chercher à l'aider à être heureux, à respecter certaines balises pour ne pas se faire mal et pour vivre une belle vie. Alors, écoutez bien, je précise, Dieu aime chaque être humain d'un amour inconditionnel. Remarquez bien, Dieu n'a pas posé aucune condition avant de vous aimer puis avant de m'aimer. Pensez-y. Dieu n'a pas dit, je vais l'aimer, lui ou elle, quand elle va faire ci ou quand elle va faire ça. Dieu aime qu'on vive selon ses lois, c'est ça. Mais s'il avait attendu qu'on soit aimable pour nous aimer, le Christ ne serait pas mort pour nous autres. Parce qu'il a décidé ça avant qu'on existe. OK? Il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Il a payé un prix absolu pour nous autres avant qu'on soit aimable, avant même qu'on désire changer, avant qu'on le connaisse. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 5, verset 10, « Lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » C'est pas peu de choses, là. Lorsqu'on était ennemis de Dieu, quand je vous dis que Dieu aime chaque être humain d'un amour inconditionnel, c'est ça. Il n'a pas posé de conditions avant. Il a dit, « Je les aime, voici mon plan de salut pour les sauver de la mort et des souffrances sous lesquelles ils se sont placés en vivant contrairement à mes lois. » C'est ça que Dieu a fait. Et Dieu a fait les premiers pas. Et c'était dans un esprit, dans un amour inconditionnel. Cependant, il ne veut pas que nos actions nous gardent dans les misères humaines et dans les souffrances dans lesquelles nous sommes quand nous transgressons ses lois. Chaque transgression de loi amène des conséquences, soit immédiates ou soit un peu plus tard. C'est inévitable. C'est pourquoi il nous offre son aide pour qu'on change, qu'on vive selon ses voies. Et il fait tout pour que nous nous sentions aimés et que nous soyons ainsi encouragés à prospérer. Et vous remarquez comment Dieu est encourageant dans sa Bible? Et des fois, on a des périodes plus creuses, on a besoin d'aller voir les encouragements. Et c'est normal. Et Dieu sait qu'on a besoin d'être encouragé. Parce que quand on est encouragé, on y va avec cœur pour continuer. On se fie à Dieu parce qu'on le connaît davantage. Et Dieu nous donne plein de signes et plein d'exemples dans la Bible et dans notre vie personnelle, lorsqu'on marche dans ses voies, il nous donne plein d'exemples pour nous montrer qu'il nous aime, pour qu'on se sente aimé. Et un petit enfant qui se sent vraiment aimé, et vous remarquez comment il se développe? C'est comme une belle plante. Il y a plein de choses qui apparaissent dans sa vie, dans son caractère et tout ça, et c'est beaucoup plus facile. Il y a un élément qui représente bien Dieu et qu'on apprend à découvrir dans son caractère, c'est que Dieu est constant. Dieu est constant. Ça, c'est un point important. Dieu est constant. Dieu ne change pas. Dieu est parfaitement prévisible. Et ceux d'entre nous qui vont persévérer jusqu'à la fin et qui seront là au retour de Christ pour enseigner dans le monde à venir, auront développé le caractère de Dieu, sa constance, et vont être prévisibles. C'est pour ça que Dieu va être capable de vous confier la vie éternelle, avec des postes de responsabilité pour aider les êtres humains à ce moment-là. C'est pour ça, parce que vous allez être constant, vous allez être prévisible. C'est ce qu'on est en train de développer en vivant selon les voies de Dieu. Rappelez-vous le cantique que je vous ai cité au début de mon sermon? « Ceux qui connaissent ton nom se fieront toujours à toi. » Plus on connaît Dieu, plus on lui fait une entière confiance. Pourquoi? Parce que la confiance envers quelqu'un est basée absolument sur la constance de la personne. Je peux avoir pleine confiance en vous si vous êtes constant. Je vous ai déjà demandé de faire certaines choses, je vous ai déjà donné certaines responsabilités, vous vous en êtes acquitté au mieux. Et une deuxième fois, une troisième fois, et au cours des années, ça a toujours été comme ça. Donc, je peux avoir une confiance absolue en vous parce que vous avez toujours agi comme ça. Ou si ça n'a pas toujours été le cas, vous avez développé de toujours agir comme ça. Et c'est ce que Dieu est en train de nous montrer dans ce qu'on apprend maintenant, pour qu'on devienne constant et qu'on devienne digne de confiance. Si on est constant, on est digne de confiance, et là, il va nous donner la vie éternelle. Et promesses de Dieu, à cause du fait que Dieu est constant, c'est que les promesses de Dieu sont infaillibles. Et vous regardez, tout ce que Dieu a promis dans la Bible, qui devait s'accomplir jusqu'à nos jours, c'est accompli. Quand il avait promis que son Fils viendrait dans la chair humaine en tant qu'agneau de Dieu pour donner sa vie, ça s'est passé, c'est un élément du passé. Quand il avait promis à la nation d'Israël de la délivrer d'Égypte, ça s'est passé, exactement au moment où Dieu l'avait fixé. Et ce qu'on voit se dérouler sur la scène mondiale actuellement, tous les bouleversements que l'on voit, Dieu les a annoncés d'avance et ça se produit. Pourquoi? Parce que Dieu ne se trompe pas. C'est le Tout-Puissant. Il a le pouvoir de le faire. Et quand Dieu dit qu'il va délivrer ses enfants au temps de la fin, on peut être sûr qu'il va le faire parce que Dieu est infaillible et que Dieu est Tout-Puissant. D'ailleurs, en tant que Père parfait et constant, qu'est-ce qu'il fait? On voit ça dans Deutéronome, tout le chapitre 28. Dieu promet, comme il avait fait à l'ancienne nation d'Israël, d'ailleurs, il promet à chacun d'entre nous, il dit, si vous obéissez à mes voies, à mes lois aussi, vous allez être bénis, vous allez en tirer du bon fruit. Mais si vous vous détournez de mes voies, vous allez souffrir, vous allez être sous la malédiction. Choisissez, j'ai mis devant toi la vie, la mort, le bien, le mal. Choisis la vie pour vivre, toi et tes enfants. Ça revient encore à ça. Et ça, c'est comme un père qui dit à ses enfants, écoutez, faites telle chose, je ne veux pas que vous fassiez telle chose, parce qu'il y a des conséquences. C'est exactement la même chose. Dieu nous aime, il sait ce qui est bon pour nous. Alors voyez-vous, plus on apprend à connaître Dieu, plus on réalise en même temps qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand quelqu'un le cherche, Dieu répond. C'est ce qu'il veut. Parce qu'il veut qu'on collabore volontairement pour changer. Et dès qu'on manifeste ça, lui est content. Et il va au-delà. Et quand il nous bénit, avez-vous remarqué qu'il ne nous bénit pas de façon serrée, on va dire, de façon limitative, ça déborde. Quand il envoie une bénédiction, ça déborde, il y a de la place. Quand il ouvre une porte, on a de la place à passer. Ça ne frotte pas sur les cadrages de porte, il y a de la place à passer pour qu'on aille. Dieu bénit de façon abondante et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans Deutéronome 28, verset 2, il dit ceci au début du chapitre justement que vous pourrez lire, qui décrit les bénédictions que Dieu avait promis à Israël s'il obéissait et les malédictions qui allaient tomber sur eux s'il désobéissait. Puis c'est arrivé dans l'histoire, on le voit, et c'est en train de se reproduire dans les nations qui descendent d'Israël ancien, actuellement, les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, le Canada et ainsi de suite. On voit ces malédictions-là commencer à s'abattre, telles que promis, si nos nations se détournaient de Dieu et l'abandonnaient. Même on méprise ces lois maintenant. On rejette. Alors Dieu est infaillible. Dieu dit une chose. Dieu est constant et Dieu l'a fait arriver. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, comme il laisse s'abattre sur ceux qui se détournent de lui les problèmes et les misères qu'on voit. Dans Deutéronome 28, verset 2, il dit ceci. Ça s'adressait à l'ancienne nation d'Israël, comme je vous dis, mais ça s'adresse à nous autres aussi. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Voici les bénédictions que je suis prêt à te donner, que j'ai le goût de te donner, que je ne demande pas mieux qu'à te donner, mais cherche mes voies. Et plus tu vas le faire, plus je vais te donner de la force pour le faire. » Et on voit un David dans ce sens-là qui était loin d'être un être parfait, mais qui dit à son Dieu, à ce moment-là, « Oui, c'est toi qui me donnes toutes bonnes choses, puis tu m'apprends, même tu dois me corriger, tu me corriges avec amour, puis tu me consoles, même quand tu dois me corriger, comme le bon père que tu es. » Quand on regarde les psaumes, c'est ça qu'il dit. Je paraphrase, mais c'est ça ce que ça veut dire. Puis à un moment donné, dans le psaume 103, verset 2, il dit à Dieu, « Mon âme bénit l'Éternel. » Autrement dit, « Mon Dieu, je te remercie. » Et n'oublie aucun de ses bienfaits. David s'efforçait d'obéir à Dieu, et Dieu bénissait. Et plus le cycle se produisait, plus David avait de force pour le faire. Dieu donne son esprit à ceux qui s'efforcent de lui obéir. Toutes les lois de Dieu, que ce soit physiques ou spirituelles, sont fondées sur le principe de cause à effet. Pensez-y un peu. Toutes les lois de Dieu, même physiques ou spirituelles, c'est toujours cause-effet. On fait telle chose, il y a tel effet. Si vous sautez du deuxième étage, OK? Il y a une loi physique qui va s'appliquer. Vous n'avez pas besoin d'appeler un ingénieur quelque part ou un chef de département pour dire, pourriez-vous, s'il vous plaît, éviter que la loi de l'attraction s'applique. Elle va s'appliquer automatiquement. C'est le cas de toutes les lois que Dieu a mises dans la création, sur le plan physique puis sur le plan spirituel. Si la personne saute en bas du deuxième étage, automatiquement, la loi de l'attraction va opérer et la personne va se blesser ou peut-être même mourir. Tous les principes et les lois de Dieu, ce sont des principes de cause à effet. Et quand on pratique la loi de Dieu, il y a un effet bénéfique qui s'ensuit. Quelqu'un, par exemple, qui tient sa parole, puis qui est toujours constant là-dedans, bien, sa réputation se répand. Puis à un moment donné, la personne demande quelque chose à quelqu'un, puis elle dit, oui, je vais te rembourser, tu peux compter là-dessus. Si, on, par exemple, elle emprunte d'argent ou tout ça, il y a un bien qui en découle du fait qu'elle a appliqué une loi de Dieu, elle a toujours tenu sa parole. Alors, il y a un bienfait qui sort de ça, et c'est la même chose pour toutes les lois. Tous les principes établis par Dieu, en fait, c'est un plan de bonheur pour l'humanité, si on résume. C'est un plan de bonheur pour toute l'humanité. Dans Ésaïe 42, 21, vous irez voir Ésaïe 42, 21, c'est marqué « L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, et bien sûr pour le bonheur de toute l'humanité, parce qu'il veut que tous soient sauvés, publier une loi grande et magnifique. » L'Éternel a voulu, pour le bonheur de l'humanité, publier une loi grande et magnifique. La conséquence des lois de Dieu, cause-effet, c'est le bonheur. D'où l'importance de connaître Dieu, de connaître sa volonté et de la faire. Et c'est ça, connaître Dieu. Ce n'est pas juste une notion intellectuelle de dire que je sais que Dieu existe. Beaucoup de gens savent que Dieu existe. Mais parmi tous ceux qui savent que Dieu existe, combien pratique les choses que Dieu dit de pratiquer. Comment de personnes parmi ceux-là aiment Dieu à la façon dont Dieu a décrit qu'on devait l'aimer? Plusieurs essaient comme ils pensent, mais ce n'est pas selon la voie de Dieu. Absolument pas. Dans 2 Timothée, chapitre 2, c'est marqué au verset 19 à la fin, au début, c'est-à-dire, « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Autrement dit, si quelqu'un dit « je connais Dieu », pour que ce soit réel et que ce soit vrai, même si la personne est sincère, pour que ce soit réel, il faut que la personne soit en train de mettre dans sa vie en application les commandements de Dieu et de vivre selon ses voies. Autrement, la personne peut dire « Seigneur, Seigneur », comme c'est marqué dans Matthieu 7, verset 21, quand le Christ dit, c'est pas tout le monde qui parle du Christ, qui parle de Dieu, qui vont entrer dans le royaume. Il dit, c'est juste ceux qui font la volonté de mon Père qui sont dans les cieux. Alors, on a beau, même sincèrement, parler de Dieu, parler de Dieu, parler de Dieu, si on ne met pas en pratique les choses que Dieu nous dit de faire, avec son aide, parce que tout seul, on n'est pas capable, on n'aime pas vraiment Dieu et on ne connaît pas vraiment Dieu. Et plus on fait ça, plus on connaît Dieu à ce moment-là. 1 Jean 2, verset 3, c'est écrit, et ça ne peut pas être plus clair que ça, 1 Jean 2, verset 3. « Si nous gardons ses commandements, les 10 commandements qu'il nous a donnés, nous savons par cela, quoi? Nous savons que nous l'avons connu. » Avez-vous marqué le mot? « Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons par là que nous l'avons connu. » Donc, ça veut dire que connaître réellement Dieu, c'est de mettre en pratique ses lois avec son aide. Ce n'est pas de faire les choses à notre façon. Sinon, on parle de Dieu, on pense le connaître, mais on ne connaît pas le vrai Dieu. Et on a beau faire plein de choses, ça ne va pas plus loin. On n'est pas vraiment en relation avec Dieu. Connaître Dieu, c'est de mettre ses lois en pratique. Connaître Dieu, c'est le mettre en premier dans notre vie, avant tout, avant qui que ce soit et avant quoi que ce soit. Ça va loin. Connaître vraiment Dieu, c'est d'en arriver à le mettre en premier, de lui donner la première place dans notre vie, avant toute chose et avant toute personne. D'ailleurs, écoutez, c'est la condition que le Christ lui-même a posée pour que nous devenions des chrétiens. Et c'est une des choses que les gens doivent réaliser avant de passer par les eaux du baptême, à quoi ils s'engagent. Et tous les ministres de Dieu l'expliquent clairement à chaque personne qui est baptisée. On le voit dans Luc, pardon, chapitre 14 et le verset 26. Le Christ dit ceci. « Si quelqu'un vient à moi, ou si quelqu'un devient chrétien, ou veut devenir chrétien, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il n'est pas digne d'être mon disciple. » Avez-vous remarqué la déclaration? Si quelqu'un veut être chrétien, il faut qu'il mette vraiment Dieu en tout premier, avant quoi que ce soit et avant qui que ce soit. C'est la condition. Dieu nous a tout donné, il nous a donné même la vie. Il a le droit de nous demander ces choses-là, et c'est une façon par laquelle nous connaissons le vrai Dieu et que nous faisons sa volonté, et une façon de l'aimer. C'est la condition première pour être chrétien. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, enfin à tout ce qu'il possède, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Humainement, ce n'est pas possible, mais avec l'aide de Dieu, oui. Je reviens à ça. Écoutez, c'est une autre façon de dire, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça, c'est une autre façon de dire le premier commandement, des 10. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je ne sais pas si vous avez déjà mis les deux versets ensemble. Quand le Christ dit ça, là, si vous venez à moi, si vous devenez chrétien, pour devenir chrétien, il faut que vous me préfériez à tout ce que vous avez, à tout votre entourage, et ainsi de suite. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est exactement le premier commandement. Écoutez, il y a une similarité intéressante quand on regarde entre cette relation-là de la personne qui est appelée par Dieu avec lui et qui doit mettre Dieu en premier. Il y a une situation semblable là-dedans avec une situation de deux personnes qui se fréquentent. Un jeune homme et une jeune femme qui se fréquentent ou un couple. Plus on apprend à connaître l'autre personne, plus on apprend à apprécier l'autre. Et c'est pour ça que les fréquentations ont un rôle important à jouer. Apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier, voir si on peut vraiment aller ensemble, voir si on a les mêmes buts et ainsi de suite. Alors, les fréquentations jouent un rôle majeur là-dedans. On apprend à se connaître, on apprend à s'apprécier. Et à ce moment-là, plus l'autre personne devient chère à nos yeux. C'est pas ça qui se passe. Rappelez-vous, messieurs, plus notre épouse est devenue chère à nos yeux à un moment donné. Et aller jusqu'à dire... Vous devez l'avoir dit, vous autres aussi. Tu es la personne la plus précieuse pour moi. Il n'y en a pas d'autre. J'ai pu fréquenter d'autres personnes et tout ça, mais maintenant j'ai trouvé la personne qui est que je veux avoir comme épouse. Je t'admire, je t'aime et je suis bien avec toi. Et j'aimerais qu'on partage le reste de notre vie ensemble. Sur le plan humain, c'est la relation la plus forte qui peut exister et la plus totale aussi. C'est extraordinaire. D'ailleurs, le terme biblique pour décrire la relation sexuelle entre Adam et Ève au début, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit? Adam connut Ève et elle devint enceinte. Je trouve ça tellement joli. Ça va avec la connaissance. On parle de connaître Dieu. C'est une relation intime avec Dieu, là. Et sur le plan humain, c'est la même chose. C'est une relation très intime avec notre partenaire, notre conjoint, puis une relation exclusive où elle est en premier. Mon épouse doit être en premier, après Dieu. Comme moi, je suis en premier dans sa vie, après Dieu, comme elle m'a déjà dit. Puis je ne suis pas jaloux de Dieu, je suis content. Parce qu'il faut que ce soit comme ça. Si ce n'était pas comme ça, ça ne va pas. Parce que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il ne doit pas avoir personne, ni qui que ce soit, de plus important que Dieu à ses yeux et à mes yeux. Après, on est un couple, on est heureux ensemble, on est bien, on s'est choisi, on se l'est dit. Alors, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est l'exclusivité avec Dieu, là. Et à ce moment-là, c'est une relation de priorité avec lui. D'ailleurs, il faut que je vous dise quelque chose. C'était justement là, au niveau du premier commandement, vous n'avez peut-être jamais vu ça, mais c'était là que se situait le problème du jeune homme riche de la Bible. Je vais vous amener sur un autre sentier pour vous montrer ce que je veux vous dire là-dessus. Vous savez que jeune homme riche, vous pouvez aller dans Matthieu 19. Matthieu chapitre 19, c'est là qu'il y a la description de ce jeune homme-là qui est allé vers le Christ. Il connaissait la Bible. Il avait grandi dans cette culture-là. La Bible, c'était les textes, les Écritures à ce moment-là, l'Ancien Testament. Alors, le jeune homme riche vient à Jésus puis dit, « Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la vie éternelle? » Donc, il savait qu'il n'y avait pas encore la vie éternelle, comme aucun des êtres humains n'a la vie éternelle, tant qu'on n'est pas transformé complètement par Dieu. Il dit, « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Je vous dis tout de suite que le problème de ce jeune homme-là, ce n'était pas dans sa relation avec les voisins, avec ses amis, avec ses parents. Pas du tout. On va le voir dans le texte. Le problème que ce jeune homme-là avait, c'était dans sa relation avec Dieu. Et vous allez voir, le Christ nous le montre très clairement. C'est surprenant, mais en même temps, c'est très révélateur. Et ça va exactement dans le sens de ce que je vous dis. L'importance de connaître notre Père céleste et de ne rien mettre entre lui et nous de plus important que lui. Matthieu 19, verset 16. Et voici, un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? » Et regardez ce qu'il dit après ici. « Si tu veux, un seul est bon. » Dans Matthieu ici, la phrase complète n'est pas rapportée. Vous irez voir dans Marc, je n'ai pas le passage exact, j'aurais dû le noter, là, mais vous irez voir dans le compte-rendu de Marc concernant le jeune homme riche, la phrase du Christ est traduite plus complètement qu'elle l'est ici. Ici, le Christ dit « un seul est bon ». Bon, on dirait que ça ne nous dit rien, mais dans Marc, « il n'y a de bon que Dieu seul ». Oh, ça change des choses, là. Mais vous, la première réponse que le Christ donne à ce jeune homme-là, il dit « écoute, là, il n'y a que Dieu de bon. Il y a Dieu seul qui est bon. » Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il attire l'attention du jeune homme sur le Père céleste, sur sa relation avec le Père. Et la réponse qui va s'ensuivre va s'expliquer, vous allez voir. Parce que le jeune homme en question était d'abord concentré sur les choses physiques, humaines. C'est bien ça. Le jeune homme était d'abord concentré sur les choses physiques, les choses humaines. Puis il faisait du bien à ce niveau-là, tant qu'il pouvait. On le voit parce qu'il dit après. Et dans son esprit du jeune homme, son adoration de Dieu, puis sa relation avec Dieu, ça se rapportait davantage aux relations humaines puis aux choses de la vie courante, qu'il faisait très bien, qui ont rapport avec les six derniers commandements. OK? Il ne volait pas, il ne tuait pas. Il honorait ses parents, c'est ce qu'il dit. OK? Alors, il faisait ces choses-là vraiment comme il faut. Ce n'est pas des choses mauvaises, c'est des choses bonnes, et il les faisait. Le Christ ne l'a pas repris là-dessus. Mais le jeune homme avait un problème de centre d'intérêt. Il avait un problème de priorité. C'est là qu'était son problème réel. Il avait un problème avec ce qui devait venir en premier pour lui, ce qui devait avoir le plus d'importance. Matthieu 19, le verset 17, le dernier bout donc, il dit « Il n'y a de bon que Dieu seul ». Après ça, il dit « Si tu veux entrer dans la vie, donc maintenant observe les commandements, observe-les tous ». C'est ça que ça veut dire. Il vient de lui dire, écoute, il y a juste Dieu qui est bon. Là, il l'attire sur le Père céleste. Après ça, il dit, si tu veux entrer dans la vie, observe tous les commandements. Il savait que le jeune homme observait facilement les derniers commandements. Le Christ le savait, on le voit après. Mais il dit, il va falloir que tu observes tous les commandements. Bon, je vais plus loin ici, 18, verset 18. Et Jésus répondit, le jeune homme lui dit lesquels, OK, là, il précise. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne tueras point, tu porteras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il résume donc les six derniers commandements. Alors, regardez bien le scénario ici. Le jeune homme lui dit, « Quels commandements qu'il faut que j'observe? » Le Christ lui cite exactement les commandements qu'il observait. Il savait. Il savait. Alors, le Christ, il dit, « Voici les commandements que tu dois observer. » Puis, il faisait déjà. Mais c'est parce qu'il voulait attirer son attention sur d'autres choses qu'il ne faisait pas. OK? C'est ça, là. Alors, le Christ encourageait le jeune homme. Dans le fond, il était en train de l'encourager parce qu'il était en train d'y dire les choses qu'il faisait. C'est ça qu'après ça, le jeune homme, il était tout content. Il dit, « Hey, je le fais. J'ai tout fait ça. » Mais il était en train de l'encourager. Il aurait pu y dire en d'autres mots, c'est formidable parce que regarde les six derniers commandements, comment tu les fais comme il faut. Il aurait pu lui dire dans ces termes-là. Mais non, il cite les commandements puis il sait comment est-ce que le jeune homme va réagir. Le jeune homme, il dit, « Hey, je les ai fait ces commandements-là. » On continue. Verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Qu'est-ce qui me manque? » Bon, là, on rentre dans le vif du sujet. Là, le Christ va l'amener sur le terrain où il veut l'amener. Verset 20, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? » Je fais juste un petit arrêt ici. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire au Christ, « J'ai observé toutes ces lois-là comme il faut. » C'est un jeune homme qui était remarquable, dans le fond, là. Moi, j'aurais pas pu dire ça au Christ, en tout cas. J'aurais pas pu dire ça au Christ. Honnêtement, là, j'aurais pas pu dire au Christ les six, quand il m'a appelé, là, quand Dieu m'a appelé au Christ, j'aurais pas pu dire là, les six derniers commandements, je les ai faits là, comme il faut. Non, pas du tout. Lui, il les avait fait. Il avait eu cette discipline-là depuis sa jeunesse. Alors, Jésus, si vous remarquez bien, il ne l'a pas contredit là-dessus. Il n'a pas dit, non, t'as manqué ça royalement, ça va pas. Non, il n'a pas contredit, pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit à la place, verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, maintenant il arrive à la réponse, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Bon. Si je pose la question, qu'est-ce que le Christ venait de lui dire à ce moment-là? Il dit, bon, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, parce qu'il savait qu'il était riche, donne-le aux pauvres, tu vas avoir un trésor dans le ciel, viens et suis-moi. La plupart des gens, puis peut-être vous aussi, comme moi je l'ai pensé aussi déjà dans le passé, ce qu'il est en train de lui dire, c'est que les richesses, c'est pas bon. Défais-toi de ça, et puis là, tu vas être correct. Comme si la richesse en soi pouvait être négative. Elle n'est pas négative, la richesse en soi. C'est ce qu'on fait avec elle, et c'est comment on la considère, que là, on peut se tromper. OK? Et c'est là-dessus que le jeune homme manquait son coup. Mais c'est pas, le Christ n'est pas en train de lui dire de se départir de ses biens. Le Christ n'est pas en train de lui dire de se départir de ses biens. Il y a une leçon encore beaucoup plus profonde que ça. Rappelez-vous ce qu'il a dit, la première partie de la réponse est en haut. Il n'y a de bon que Dieu seul. OK? Alors, ce que le Christ lui demande ici, c'est de prendre une décision par rapport aux priorités dans sa vie. C'est quoi qui est le plus important pour toi, jeune homme riche? C'est-tu ce que tu as ou ta relation avec Dieu? Ou si c'est d'obéir au premier commandement, de ne pas avoir d'autre Dieu devant la face de Dieu? Rappelez-vous, la première partie de la réponse est en haut. Il y a de bon que Dieu seul. Alors, il est en train ici de lui ramener, dans d'autres paroles, le premier commandement. Et il lui demande de prendre une décision dans ses priorités, c'est-à-dire de ne pas mettre ses biens ou ses bonnes actions avant Dieu en croyant que ça va lui assurer une relation adéquate avec Dieu et profitable. Par le fait qu'il fait du bien autour, que ça l'assure automatiquement d'une relation avec Dieu et qu'il est en règle avec Dieu et qu'il aime Dieu selon ce que Dieu veut. OK? Alors, il manquait une chose importante. Dans Colossiens 3, le verset 5, c'est écrit ceci. « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, qui fait partie de notre nature charnelle. » Puis là, il donne une liste de choses terrestres ou charnelles à se débarrasser, la débauche, ainsi de suite. Et à la toute fin, il dit « Débarrassez-vous de la cupidité. » La cupidité, ça, c'est la convoitise. Désirer avoir quelque chose qu'on ne doit pas avoir ou considérer quelque chose comme on a, mais hors de proportion. Avoir quelque chose puis le placer en avant de Dieu. Ça, c'est une convoitise. Parce qu'il dit, la cupidité ou la convoitise, c'est une idolâtrie. Donc, quand on adore ce qu'on a et que ça nous rend important et que ça vient avant Dieu, on commet l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on a un autre Dieu devant la face de Dieu. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. Écoutez, pour mieux comprendre, je vous donne un exemple. Comparez le cas du jeune homme riche ici avec un autre qui était riche dans la Bible. Je pourrais donner d'autres exemples, mais avec un autre qui était riche, très riche, Abraham. Trouvez-moi une place dans la Bible où Dieu dit à Abraham, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi, et là tu vas avoir la vie éternelle. » Jamais Dieu a dit ça à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'avait pas ce problème-là. Pour Abraham, Dieu était le premier. Même s'il était riche. Alors, ses richesses ne faisaient pas obstacle. Et même s'il pouvait faire du bien avec, ça ne faisait pas obstacle parce que Dieu était premier. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, il était disposé à le faire. Pourquoi? Parce que Dieu était en premier. avant, il aimait Dieu avant son père, sa mère, avant sa propre vie, même avant de la vie des siens, et ainsi de suite. OK? Probablement que Dieu n'avait pas l'intention qu'il le laisse aller. D'ailleurs, il l'a arrêté. Quand Dieu a dit à Abraham, pars de ton pays, du lieu où tu as grandi, où est ta famille, où sont tes serviteurs et tout ça, va d'un pays que je vais te montrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas critiqué. Il s'est levé, il est parti. Pourquoi? Il a été capable de faire ça? Parce qu'il mettait Dieu en premier. Et comment il a été béni Abraham? Pas à peu près, hein? Il l'est encore béni. Dans le sens que toutes les promesses que Dieu lui a données continuent de s'accomplir encore. Et les descendants des nations d'Israël reçoivent encore les promesses qui avaient été prises, qui avaient été données à Abraham, de sorte qu'on aurait, en tant que descendants des nations israélites modernes, une terre où coule le lait et le miel. Écoutez, nos pays, Australie, Canada, Angleterre, États-Unis, ont toutes les richesses à peu près sur la face de la terre, la plus grande proportion. Pourquoi? Parce que c'était les promesses faites à Abraham, parce qu'Abraham a mis Dieu en premier. Quand je vous disais que Dieu est fidèle, qui est constant, qui est infaillible, qui dit et que la chose arrive, il l'a fait, on le voit encore sous nos yeux. C'est ça. Alors, Dieu n'a jamais dit ça à Abraham, vend tout ce que tu as donné, parce qu'il n'y avait pas besoin. Dans le cas d'Abraham, il n'y avait pas ce problème-là. Alors, connaître Dieu vraiment, c'est l'aimer. Puis, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements, tout simplement. Parce que c'est écrit dans 1 Jean 5, verset 3, que l'amour de Dieu consiste à observer ses lois. C'est simple, simple, simple comme définition. C'est simple, simple, simple. Mais observez tous ces commandements. Et en commençant par les quatre premiers, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Surtout le premier, je dirais. Et en ce qui concerne notre relation personnelle avec lui, il nous dit comment l'aimer. Il nous dit lui-même comment l'aimer. Comment l'aimer? C'est par les quatre premiers commandements. Parce que les quatre premiers commandements définissent justement notre relation avec lui. Le premier commandement, de ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. Le deuxième commandement, de ne pas se faire d'image ou de sculpture ou de portrait pour essayer d'avoir un moyen de l'adorer. Il dit non. Le Christ a expliqué qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. Et on ne peut pas mettre Dieu dans un cadre ou dans... pas du tout. Dieu est glorieux, Dieu est très grand. Et le troisième commandement, pas prendre son nom en vain. Et le quatrième commandement, d'observer le sabbat, qui identifie Dieu comme le créateur de toutes choses et qui identifie ses enfants, ceux qui lui appartiennent. Vous savez, il y a de nombreuses personnes sincères qui ont pensé connaître le vrai Dieu, qui ont pensé l'aimer, mais en déterminant elles-mêmes ou, encore là, selon peut-être des traditions humaines, comment aimer Dieu. Ils ont déterminé eux-mêmes comment aimer Dieu sans aller voir dans la Bible, sans prendre ce que Dieu dit de faire pour l'aimer. Ils ont développé des moyens en pensant que ça allait être la façon de l'aimer, plutôt que de mettre en pratique les façons claires avec lesquelles Dieu veut qu'on l'aime. Vous savez, pour y arriver, certains ont donné leur fortune. Il y a des gens qui ont donné leur fortune pour les pauvres. Ils ont fait ce que le Christ demandait au jeune homme, en pensant qu'il plairait à Dieu. C'est des choses qui sont bonnes à faire, qui ne sont pas des choses mauvaises, pas du tout. Mais il ne faut pas que la personne pense, en étant généreuse, qu'automatiquement ça assure sa relation avec Dieu. Je reviens à ça, vous vous rappelez l'explication. Il faut que ça soit fait, mais d'abord, il faut d'abord aimer Dieu. Qu'est-ce que le Christ a dit? Le Christ a dit, quand on lui a demandé, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce qu'il a dit? Le plus grand commandement, tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. OK? Puis après, il dit le second commandement qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui résume les six derniers commandements. Mais il fallait commencer où? Comprenez-vous? Si je fais juste une partie des six derniers et que je donne ma fortune aux pauvres, il ne faut pas que je m'imagine en tant qu'être humain que là, je suis dans une relation extraordinaire avec Dieu, que je suis proche de lui. Non, Dieu va me dire, OK, tu as fait ça, c'est bien, mais tu ne me connais pas encore. Parce que je t'ai montré comment me connaître, comment ne pas avoir d'autre Dieu devant ma face, comment ne pas te faire d'image, comment m'honorer en respectant le septième jour de la semaine qui est le sabbat, que moi j'ai déterminé. Ce n'est pas à vous, en tant qu'être humain, à déterminer ça. Alors, certains ont donné leur fortune pour penser plaire à Dieu, en pensant que c'était ça, aimer Dieu. Certains ont donné leur vie pour soigner les lépreux en Afrique. Et pourtant, c'était des bonnes actions, puis ça reste des bonnes actions. Mais est-ce qu'ils mettaient Dieu en premier pour autant? Est-ce qu'ils observaient son sabbat? Est-ce qu'ils n'avaient pas... Est-ce qu'il éliminait les images? Est-ce qu'il adorait Dieu en esprit, en vérité, comme Dieu dit qu'on doit l'adorer? Certains ont donné leur vie pour soulager la misère en Inde. Et c'est admirable. Et certains ont vécu isolés du monde, dans des monastères, en pensant que c'était ça qui plaisait à Dieu, Alors que nulle part dans la Bible, Dieu dit qu'on doit s'isoler pour lui plaire. Au contraire, il demande qu'on fasse du bien autour, mais qu'on soit d'abord en relation avec lui. Alors, tous ces gens-là qui sont admirables dans ce qu'ils ont fait, puis qui nous donnent des exemples de ténacité, puis de dévouement à ce moment-là, n'ont pas pour autant connu le vrai Dieu. Est-ce que je vous pose la question, est-ce qu'ils ont pour autant connu le vrai Dieu? Parce que connaître le vrai Dieu, Dieu dit comment le connaître et comment l'aimer. Est-ce qu'ils ont aimé vraiment le vrai Dieu? Est-ce qu'ils ont eu une relation réelle avec lui selon la façon précise que Dieu définit dans les quatre premiers commandements? Non. Dans beaucoup de cas, ils ont sans doute fait beaucoup de bien, comme je dis, autour d'eux, comme le jeune homme riche a fait beaucoup de bien autour de lui. Mais le Christ dit, il te manque quelque chose. C'est beau ce que tu as fait, mais il te manque quelque chose. Il faut que tu connaisses Dieu. Il faut que tu en arrives à être comme Job, que tu sois capable de dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Maintenant je sais qui tu es. Dieu va se faire connaître à tous éventuellement, à ceux qui ont fait ces choses-là aussi. Et on sait que Dieu va appeler tout le monde lorsque le Christ va être revenu sur la terre. Et le jour viendra pour tous ces gens-là où ils vont devenir comme Abraham. Ils vont devenir comme Abraham, connaissant profondément le vrai Dieu. Ils vont faire le chemin de marcher avec lui, de découvrir les quatre premiers commandements, de les appliquer, là de plaire à Dieu, là de vraiment l'aimer, et en même temps de faire les autres choses qui vont compléter. Ils vont mettre en pratique le second commandement général que le Christ a donné, d'aimer son prochain comme soi-même. Et ils vont obéir graduellement à toutes ces lois, en commençant, bien sûr, par les quatre premiers commandements qui établissent d'abord notre relation avec lui et après notre relation avec les autres. À ceux qui sont appelés à connaître le Père Céleste maintenant, c'est vous et c'est moi, mais c'est toute une bénédiction. Puis c'est en même temps, c'est une responsabilité. C'est possible de développer avec lui. C'est formidable, un lien d'affection de plus en plus profond et de plus en plus intime, où la confiance se développe, où elle fait du bien, où on sait qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que ce qu'il a dit, il va l'accomplir et que je peux compter sur lui. Quand je vais devant lui en prière, je peux lui remettre mes fardeaux, mes problèmes, et je sais qu'il va en prendre charge et qu'il va les régler si moi, je m'efforce avec son aide de marcher dans ses voies. Et si moi, je ne fais pas de compromis, si moi, je n'essaie pas de garder de jardin secret dans ma vie pour tricher, parce qu'on ne peut pas tricher avec Dieu. Il faut lui appartenir de tout cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta pensée. C'est ça, hein? Il ne reste rien pour d'autres choses. Ça devient total à ce moment-là. Plus on connaît notre Père Céleste, plus on désire le mettre en premier dans notre vie, puis plus on désire faire sa volonté. Rappelez-vous le résumé des quatre commandements, donc les quatre premiers commandements faits par le Christ à la question, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, ainsi de suite. Vous savez, connaître Dieu, ça a plusieurs facettes. Ça ne se fait pas d'un coup. Mais c'est tellement enthousiasmant. Parce qu'à ce moment-là, on peut compter entièrement sur lui pour toute chose. Et Dieu va mener à terme ce qu'il a commencé. Il y a une promesse qui est que Dieu a faite dans sa Bible, que Dieu va commencer dans ceux qu'il a appelés l'œuvre. Dieu va terminer, pardon, l'œuvre qu'il a commencée dans la vie de ceux qu'il a appelés. Pour ça, nous, il faut faire notre part. Dieu ne fait pas tout pour nous, mais il fait tout ce qu'il peut pour nous aider à faire notre part si nous sommes disposés et qu'on met en place les éléments nécessaires pour lui obéir et qu'on marche avec lui de tout cœur.